RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Angle. Nos émotions se manifestent de différentes manières et notre visage trahit souvent ce que nous pensons ou vivons intérieurement. Mais plus encore, si on a coutume de dire que nos yeux sont le miroir de l'âme, les larmes versées manifestent peut-être une partie de notre humanité. Alors aujourd'hui, nous faisons peut-être l'éloge des larmes avec Marilyn Chaumont. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes journaliste à Panorama et vous avez donc écrit ce dossier sur les larmes. Et donc on va en parler aujourd'hui dans notre émission Grand Angle. Et puis avec nous par téléphone, Xavier Lopinet. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes frère dominicain, vous êtes enseignant en théologie spirituelle au couvent de Nancy et vous avez écrit « Pleurer sans pourquoi ». C'était paru en septembre 2019 aux éditions du Cerf. Et donc c'est pour ça que vous nous rejoignez sur ce plateau. Et je mentionne aussi votre dernier livre « Mon chien nous conduira-t-il au paradis ?» C'est aussi aux éditions du Cerf. Et donc on va voir aussi le lien avec tout ça. Nous aurons tout à l'heure Anne-Dauphine Julien qui nous rejoindra. En tout cas, pour le moment, nous parlons des larmes. Vous êtes dans Grand Angle sur RCF.
Grand Angle, proposé par Faustine Fayette.
Alors, les larmes, c'est pas un sujet facile quand même. Marilyn Chaumont, vous avez écrit ce dossier, Éloge des larmes, qui est paru donc dans le magazine Panorama, donc de ce mois-ci, de novembre 2020. Alors, comment est venu ce thème? Alors, c'est vrai qu'on est à la veille du 11 novembre, on est dans une actualité, les attentats, tous ces morts qu'on a enterrés de l'épidémie. Bon, les larmes, on se dit, tiens, il y a de l'actualité. Mais c'est quand même aussi universel et de tout temps. Comment vous avez travaillé le sujet?
Oui, alors c'est vrai que le numéro de Panorama est sorti le 1er novembre et donc c'était jour de Toussaint. Et le jour de Toussaint, je ne sais pas si vous souvenez, on entend dans l'évangile du jour ce mot de Jésus, « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Et le thème des larmes porte vraiment une grande contradiction en lui-même. À la fois les larmes soulagent, on dit souvent « pleurer fait du bien ». Et à la fois, aujourd'hui, souvent, on se cache pour pleurer. On a l'impression que c'est un signe d'impudeur ou de faiblesse. Et il y a même parfois un durcissement du cœur qu'on constate et qui fait qu'on s'empêche de pleurer. Or, ce dossier qui est donc publié dans Panorama est venu aussi parce qu'on a entendu des mots très percutants du pape François qui, déjà au début de son pontificat, en 2005, parlait des larmes. Et il lançait presque, on pourrait dire, un appel aux larmes, non seulement aux chrétiens, mais au monde entier, en disant « Est-ce que je pleure ? Le pape pleure-t-il ? Sachez que les hypocrites, eux, ne savent pas pleurer. » Donc, il fait un lien entre notre cœur profond et cette possibilité de verser des larmes. Voilà, et quelque chose qu'il a repris il y a peu de temps, au moment du début de la pandémie, au mois de mars, en période de carême, il a eu vraiment encore un mot très fort en demandant aux fidèles qu'ils eux-mêmes demandent la grâce de pleurer. Voilà, et il a même institué un dimanche des pleurs, c'était le 29 mars dernier.
Oui, ça c'est. Alors c'est pas très connu en plus, le dimanche, c'est récent.
Voilà, ça a été fait en lien avec l'actualité. On était en pleine secousse liée à la pandémie de coronavirus avec beaucoup d'angoisse. Et il disait, il y a beaucoup de gens qui pleurent en ce moment. Et donc, avec cette dynamique de compassion.
Alors là, en vous écoutant, Marilyn Chaumont, on sent ce qui vous a touché, ce qui vous a amené à écrire ce sujet-là et puis à en discuter avec la rédaction de Panorama. Frère Xavier Lopinet, vous avez carrément écrit un livre, Pleurer sans pourquoi. Alors qu'est-ce qui vous a touché dans le thème des larmes, des pleurs, au point d'en écrire un livre?
Écoutez, d'abord, je voudrais dire que le pape Grégoire VII, donc déjà au VIe siècle, avait écrit deux messes pour demander le don des larmes. Vous voyez, c'est un thème presque des papes, hein, qui est de, pleurons, c'est-à-dire voyons vrai, voyons quelle est la réalité qui parfois est vraiment au sens strict lamentable, hein, et c'est-à-dire ne pas pleurer parfois c'est un péché, hein. Et il y a saint Thomas d'Aquin qui dit, je suis dominicain donc je citais Thomas d'Aquin, qui dit que l'insensibilité c'est un péché,
hein. C'est donc, fort quand vraiment, même ça.
C'est très très fort, c'est-à-dire que ne pas pleurer devant certaines situations, eh bien, c'est de l'ordre du péché. Donc, il faut vraiment demander la grâce d'être nourri, d'être guéri d'un cœur dur, hein, et insensible.
Mais alors, Marilyn parlait de ce thème qui est plein de contradictions. Effectivement, oui, aujourd'hui, alors déjà, quand on parle de l'alarme, on parle souvent, voilà, tout de suite, ce qui vient, c'est l'alarme de tristesse, hein, l'alarme liée à la souffrance. C'est vrai qu'on ne pense pas spontanément déjà aux larmes de joie ou des choses comme ça. Donc, c'est déjà assez teinté, ce mot. Et puis, cette larme, elle est un peu décriée aujourd'hui. C'est signe de faiblesse. Pourquoi l'alarme a aussi mauvaise réputation, parce qu'au fond, c'est quand même une caractéristique humaine.
Alors, je dirais pas qu'elle a mauvaise réputation, je dirais plutôt qu'elles font peur. Vous voyez, elles font peur, elles désarçonnent. Et elles désarçonnent, on pourrait dire facilement celui qui pleure, mais en fait, soyons clairs, elles désarçonnent celui qui est en face. Et on est très gêné quand quelqu'un pleure en face de nous, parce qu'on se retrouve en position de consolateur potentiel, et on ne sait pas comment faire. Et elles désarçonnent. Pourquoi ? Ben parce qu'elles disent quelque chose d'une authenticité qui est troublante. Vous voyez, pour faire une analogie, je dirais que c'est comme la vérité qui sort de la bouche d'un enfant. C'est-à-dire, parfois c'est très troublant, parce que c'est parfaitement juste, et on ne sait pas comment l'apprendre. Et quelqu'un qui pleure, mais on est en face à une authenticité, d'une corporéité, d'une personne, d'une vie, d'une histoire. Ça nous échappe, vous voyez.
Marilyn, vous dites dans votre article, les larmes défigurent, elles trahissent l'intimité, elles empêchent de sauver la face. Donc là, on est vraiment presque. C'est vrai que dans notre société, on est beaucoup là-dedans, avoir un masque un peu social.
Oui, parce que on est quand même dans un temps où on a une idée de. Voilà, d'atteindre un bonheur, il y a un peu un droit au bonheur presque qui est revendiqué. Et donc, d'un autre côté, la souffrance est quelque chose qui va à l'encontre de ce bonheur recherché et qui donc souvent doit être évité. Et donc les larmes, elles viennent perturber cet ordre-là et elles disent quelque chose qu'on ne voudrait pas entendre, pas dire ou très vite oublier. Voilà, effectivement, elles défigurent. Hein, quand on voit quelqu'un pleurer, son visage se transforme. Souvent, après, elles apaisent, mais il y a ce moment-là, des pleurs.
Et c'est vrai que ça désarçonne, comme dit le frère Xavier.
Oui, tout à fait.
Et d'ailleurs... est-ce que autrefois, je sais pas, au Moyen-Âge, est-ce qu'on savait pleurer? Est-ce qu'on savait mieux réagir face aux pleurs? Alors, je sais pas, frère Xavier, peut-être vous avez étudié le sujet.
Oui, je pense qu'on était beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui est la corporealité. C'est-à-dire, il y avait une unité plus grande, quelque part, sur le fait de prier à genoux, de s'exprimer par des cris. Oui, par exemple, au Moyen-Âge, on prie très peu de façon mentale, sans parler. Donc il y a quelque chose. On pleure facilement quand on prie au Moyen Âge. Hein. C'est un grand classique. C'est on se cache derrière dans une église pour voir comment le saint prie, hein, comment Jeanne d'Arc prie, comment saint Dominique prie, et à chaque fois c'est le saint prie en pleurant, en s'agenouillant, en se mettant par terre. Il y a quelque chose du rapport à la corporité, oui, qui est plus net peut-être. Alors, et les temps modernes ont beaucoup plus intériorisé. Mentaliser le rapport à Dieu.
Oui. Et alors, paradoxalement, c'est vrai qu'on a intellectualisé, bon, c'est aussi tout ça, c'est toujours lié un peu au siècle des Lumières, on est dans le mental, bon, peut-être aussi la société française, je dirais européenne aussi. Et en même temps, paradoxalement, on est aussi dans une société aujourd'hui du spectacle, la télévision. Et je me dis finalement, on cherche aussi parfois un peu l'alarme facile. C'est-à-dire que quand on peut regarder une émission télévisée ou même on voit le gros zoom sur les yeux, on va aller chercher celui qui pleure. Là, c'est autre chose. Là, on n'est plus dans le. Et on a l'impression que on va montrer une faiblesse, mais qui est plus du voyeurisme peut-être.
Oui, vous avez raison. On voit ça, par exemple, les rencontres entre des personnes qui ne sont pas vues depuis des années, avec un ancien maître d'école, etc. Donc, c'est très scénarisé. Hein. et on fait surgir le maître d'école, et il y a des pleurs de partout, etc., et jusque dans les chaumières.
Alors, oui, c'est ça, faire pleurer dans les chaumières, bien sûr.
Hein. Ben, ça veut dire, positivement, qu'on se rend compte que la larme a un pouvoir. Hein. Donc, si on en joue à la télévision, c'est qu'il y a un pouvoir extrêmement fort pour faire passer un message, une collectivité, etc. Donc, oui, je dirais, il y a un diktat de l'émotion, hein, clairement, d'où, je dirais, l'impératif du discernement. C'est-à-dire, comme toute prophétie n'est pas une vraie prophétie, hein, il y a des vrais prophètes et des faux prophètes, eh bien toute larme n'est pas juste. Hein, et il faut savoir discerner de quel type de larme, et puis est-ce que c'est des larmes de crocodile ou des larmes authentiques. Et là où moi, comme chrétien, je suis confiant, c'est que chaque homme a en lui la capacité de discerner. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est jamais le jouet complet, ni de ses émotions, ni des émotions des autres.
Alors, ça me fait penser que, justement, quand on parle de ce discernement, il y a des positions, des fonctions qu'on peut avoir, que chacun a, où on se dit, ben, est-ce que peut-être là, il faut que j'empêche mes larmes de couler, parce que ça sera mieux. Je pense à des parents face à leurs enfants, je pense à des fonctions comme, je sais pas, un président de la République, un directeur face à des employés. Alors, voilà, est-ce qu'il y a un moment, il y a un temps pour pleurer, il y a peut-être aussi un public, enfin, je ne sais pas comment on peut dire.
Alors, pour revenir à nos parents, qui est notre cercle humain le plus proche pour chacun de nous, de fait, je pense que chaque personne est capable de dire quand est-ce qu'il a vu ses parents pleurer. Hein. Et c'est-à-dire à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très fort au niveau de la transmission. C'est-à-dire, à ce moment-là, nos parents nous ont signifié, mon fils, ma fille, sur ces choses-là, il faut pleurer. Là, je dirais que le discernement à faire, ça serait entre les convenances sociales et le rapport authentique que j'ai avec mes employés, mes élèves, mes enfants. Hein. Que voudraient dire des parents qui ne s'autorisent pas à pleurer quelque part devant leurs enfants, hein. Là, il manque quelque part une transmission très importante. Hein, et vraiment, je crois que chacun de nous, de même qu'il enregistre ce sur quoi ses parents rient, hein, l'humour des parents, mais de même, on enregistre, au-delà des mots, au-delà de tous les discours pédagogiques, les choses profondes sur lesquelles nous avons le droit de pleurer. Hein. Donc, nos rires sont très culturels et très familiaux, hein, bien sûr.
Je vois que Marilyn acquiesce.
Oui, tout à fait. On en revient à ce que disait tout à l'heure le frère Xavier. Il y a une question aussi d'authenticité et de vérité. Donc, les larmes, je pense, vous disiez, un président, quelqu'un qui a une fonction importante, doit-il se permettre de pleurer? Je crois qu'il y a toujours un risque de manipulation, de spectacle quand un certain pouvoir nous est conféré. Mais je pense qu'au profond de ces personnes, il y a un moment, un passage par la vérité qui se fait. Et si la larme doit couler dans la vérité, alors il faut qu'elle coule, parce que c'est des moments effectivement importants. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand le pape s'interrogeait, est-ce que le pape lui-même pleure, c'est un signe important, même dans l'exercice d'un certain pouvoir, on va dire, en tout cas d'une certaine autorité, ça peut être un signe important de compassion. Et enfin, le frère Xavier pourra nous en parler, comme il le développe un peu dans Panorama. Il y a aussi, c'est dans la figure du Christ, tout simplement, on parle de maître, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup pleuré. On voit que l'évangile est traversé par les larmes, et elles ont vraiment quelque chose à nous dire, enfin un sens spirituel et humain très fort, d'humanisation. Donc, quelle que soit notre position sociale ou notre position, il y a des moments où c'est particulièrement important. Et ça se lit non seulement dans l'évangile, mais au fil de la Bible. Je pense que le père Xavier peut nous en parler. Il y a beaucoup de choses à trouver. Voilà, un grand sens des larmes à trouver dans différents passages bibliques.
Alors, on y reviendra justement dans les larmes dans la Bible. Juste avant ça, vous l'évoquez, parce que vous êtes allé chercher des témoignages, Marilyn, pour nourrir un peu ce dossier. Et je voyais donc dans ces témoignages, donc il y a Timothée père de famille, qui parle de ses larmes et de sa pudeur d'homme en même temps qui est questionnée. Il y a Mia qui avait peur d'être vue comme une pleurnicheuse. Et on voit aussi à travers ça, on a presque l'impression que, mais ça c'est un peu la doxa, que les larmes sont genrées. Les larmes, c'est l'apanage des femmes finalement. Et puis un garçon, ça ne doit pas pleurer. Voilà, c'est ce qu'on entend souvent, qu'à traverser les siècles, j'ai l'impression, cette expression. Alors est-ce que c'est vraiment genré?
Alors c'est sûr qu'il y a une sensibilité proprement féminine qui fait que parfois la spontanéité de la larme va peut-être un peu plus vite. Mais non, on ne peut pas dire que la larme soit réservée aux femmes en particulier, même s'il y a des traditions, des civilisations où ce sont les femmes qui pleurent pour les funérailles, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile. Justement, je vous parlais de ce père de famille qui a vécu un drame avec la perte d'un petit enfant au moment de la naissance, un enfant attendu depuis plusieurs années, et qui racontait que quand ça a secoué son couple et tout son cœur, cette épreuve, quand il allait au bureau, il se cachait pour pleurer. Donc, y a quelque chose de l'ordre d'une trop grande pudeur. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut quelque part se battre contre cette trop grande pudeur qui n'en est finalement pas une, qui n'est pas une pudeur ajustée, parce que la larme appelle la consolation, elle appelle le consolateur. Donc ça montre qu'on sort de notre. Si on compte sur nos propres forces, on s'effondre. Hein, la larme, les pleurs, quand on se cache, il y a un effondrement tel qu'on s'appuie pas suffisamment sur les autres aussi. Et le frère Xavier de Lopinet citait tout à l'heure Thomas d'Aquin, et justement saint Thomas disait. Que les larmes sont un bien déjà, et que toute chose s'accroît de ce qui lui convient, et que les larmes, c'est ce qui convient à la tristesse, c'est ce qui convient, c'est-à-dire que c'est ce qui traduit la tristesse. Et donc si on est dans une profonde tristesse mais qu'on n'appelle pas cette consolation, il y a quelque chose d'encore plus douloureux. Et donc je pense qu'aujourd'hui il faut retrouver, homme ou femme, quel que soit notre sexe, retrouver ces moments où on peut pleurer, et même devant les autres.
Frère Xavier Lopinet.
Alors c'est sur cette question que je trouvais amusant. Hein. En tout cas pour la Bible, non, c'est pas du tout genré. Hein, un des plus gros pleureurs dans la Bible, c'est le Joseph, hein, le fils d'Isaac,
ouais, qui n'arrête pas de pleurer. Dans
l'Ancien Testament. Et il a de quoi. Il a été vendu par ses frères. Ensuite, il retrouve ses frères et qui lui disent, sans savoir que c'est lui qui est devant eux, en disant « on n'aurait jamais dû le faire ». Et lui-même va se cacher pour pleurer. Donc lui n'arrête pas de pleurer. Donc le Christ, bien sûr, pleure trois fois dans les évangiles. Hein, donc en tout cas dans la Bible, tout le monde est autorisé à pleurer.
Alors on va revenir sur cette litanie de personnages et peut-être quelques situations justement proprement bibliques. On voit les pleurs. Avant cela, on va écouter un petit peu de musique. On se retrouve tout de suite.
Il y a ceux qui prendraient un avion, d'autres qui s'enfermeraient chez eux, les yeux fermés. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Toi, qu'est-ce que tu ferais?
Y en a qui voudraient revoir la mer. Leur passé, certains qui voudraient boire et faire la fête jusqu'au matin, d'autres qui prieraient,
ceux qui s'en fichent et se donneraient du plaisir,
et d'autres qui voudraient encore partir avant la fin. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Et toi, qu'est-ce que tu ferais?
Si on
c'est Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre. Alors justement, est-ce qu'on pleurerait si on mourait demain ? Nous parlons aujourd'hui du thème des larmes.
Grand angle, RCF.
Et avec moi pour parler donc de l'éloge des larmes, c'est le dossier qui paraît ce mois-ci dans le magazine Panorama. Marie-Hélène Chaumont en studio avec moi, journaliste qui a écrit cet article. Et puis Xavier Lopinet, frère dominicain et enseignant en théologie spirituelle. Et frère Xavier, vous avez donc écrit ce livre « Pleurer sans pourquoi ». Je voulais revenir, pourquoi ce titre justement ? Pourquoi pleurer sans pourquoi ?
Pourquoi sans pourquoi ? La thèse est simple. Plus les pleurs nous échappent, plus ils ont de sens. C'est-à-dire, plus les pleurs n'ont pas de raison, quelque chose de « mais je ne comprends pas pourquoi je pleure », plus en fait ces pleurs-là ont du sens. Hein, donc ce livre parle spécifiquement du don des larmes, c'est-à-dire des larmes qui ne viennent pas de nous, qui nous sont données, que Dieu nous a données. Hein. Et pour revenir à votre excellente première question, c'est pourquoi les larmes dérangent, etc. Peut-être parce que c'est Dieu tout simplement qui pleure en face de nous. Vous voyez, hein, c'est y a quelque chose d'une irruption de sens, irruption de Dieu, qui fait qu'on est extrêmement désarçonné. Hein. Donc, le pleurer sans pourquoi, c'est pleurer, c'est Dieu qui pleure en moi. Hein. Je pose comme question hein, pour chacun de nous, c'est qui pleure en nous quand nous pleurons hein. Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est l'adulte? Est-ce que c'est celui qui est, enfin devient adulte en redevenant enfant? Ou est-ce que c'est pas Dieu, tout simplement ?
Et interroger ses pleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça rejoint un peu la question de ça nous aide à discerner, finalement.
Oui.
Est-ce que, d'où viennent ces pleurs ? Est-ce que j'ai raison de pleurer ? Ou est-ce que je peux pleurer ? Je peux me permettre de pleurer à ce moment-là devant telle ou telle personne aussi ?
Oui, et puis quand on répond à la question « c'est Dieu qui pleure en moi », vous voyez, ça c'est extrêmement troublant. Moi, je n'ai pas reçu le don des larmes, mais j'ai rencontré des personnes qui l'ont reçu et qui disent effectivement... Cette irruption de quelqu'un en eux. Hein. Le pape François a cette formule-là pour la prière. Il dit « Quand je prie, c'est Dieu qui respire en moi.
Hein, » Ah, c'est magnifique.
C'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint qui respire en moi. Et bien, pour les larmes, pour certaines larmes, pas toutes, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire, quand je pleure, c'est Dieu qui pleure en moi sur certaines situations.
Et alors, on avait commencé à évoquer un peu quelques personnages bibliques, mais il y en a forcément qui nous marquent peut-être plus. Alors, je pense à Jésus, je pense à Marie-Madeleine et Saint-Pierre, qui ont tous les trois. Donc, Jésus qui pleure devant le tombeau de Lazare, son ami. Marie-Madeleine qui pleure et qui essuie avec ses cheveux les pieds de Jésus, il me semble. Et puis Saint-Pierre qui pleure après avoir renié. Ce sont des pleurs très forts. Qu'est-ce qu'on apprend de ces pleurs-là dans la Bible ? On dit toujours que si c'est écrit dans l'Évangile, c'est qu'on a quelque chose à en tirer.
Oui, alors, de fait, les deux grands pleureurs du Nouveau Testament, c'est Saint-Pierre et Sainte-Marie-Madeleine. Or, Saint-Pierre, c'est les pleurs suite au reniement. Et c'est très intéressant parce que Pierre pleure quand Jésus le regarde. Hein, c'est-à-dire, troisième reniement, c'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 22, Jésus se retourne, donc les regards se croisent, et à ce moment-là, il se souvient et il pleure. Ambroise de Milan va théoriser ça en disant « pleure ceux que Jésus regarde ». Vous voyez, quand on se rend compte de son péché, on ne se rend compte pas tout seul. C'est parce que Dieu nous regarde. Donc c'est extrêmement positif. C'est-à-dire, ce n'est pas des pleurs de désespoir. C'est je pleure parce que je me rends compte. Et je me rends compte parce que quelqu'un me regarde, qui est le Christ.
Et donc, ce qu'on disait aussi, c'est que donc il y a ce côté qui nous humanise, qui nous rend vraiment très humains et presque où justement le divin nous traverse. Et alors, ne pas pleurer, ça nous déshumanise. Ne pas pleurer, c'est avoir le cœur sec. Vous dites, il me semble, cité dans l'article, les yeux sont la source de la vie. Est-ce que les larmes, c'est aussi, ça manifeste la vie en nous aussi ?
Oui, parce qu'en hébreu, il y a un jeu de mots, l'œil et la source, c'est le même mot. C'est Aïn. Donc l'œil, c'est aussi une source de vie. Hein. Et il y a des formules très intéressantes, très paradoxales hein, dans les psaumes, c'est « tu m'as nourri du pain des larmes ». Donc, comme si les larmes nourrissaient, de fait, elles apportent quelque chose. Ou encore, le psalmiste dit « toi, Dieu, recueille en tes outres mes larmes ». Donc, comme si nos larmes étaient doit être recueilli dans des outres que Dieu garderait, hein, des outres, donc c'est assez positif.
Finalement, on prête pas souvent attention, mais il est beaucoup question de larmes. Vous m'en parliez, Marilyn, la Bible est trempée de larmes, finalement.
Oui, tout à fait. Et le frère Xavier disait que c'était une affaire de regard, que quand on était regardé par Dieu, finalement, les larmes étaient versées. Et c'est justement, c'est aussi une affaire de consentement. C'est-à-dire que pourquoi Marie-Madeleine, pourquoi Pierre pleurent à ce moment-là, c'est parce qu'ils acceptent aussi ce regard de Dieu qui met leur cœur à nu. Et en fait, ça a tout un sens, c'est ce sens très fort de vérité et d'humanisation. C'est qu'on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre que nous-mêmes face à Dieu. Et il nous accepte vraiment tel que nous sommes. C'est vraiment l'expérience de Marie-Madeleine. Et elle pleure sur les pieds de Jésus parce qu'elle a compris que le Christ l'acceptait vraiment comme elle était. Et après, elle en était libérée.
Et c'est parce qu'en même temps, la dernière phrase que Jésus dit à Marie-Madeleine, ou une des dernières, c'est « Femme, pourquoi pleures-tu ?» C'est-à-dire au moment de la résurrection, toutes les larmes n'ont plus aucune raison d'être. Donc, j'écris dans mon livre, les larmes de Marie-Madeleine sont celles qui ont été le plus définitivement séchées. Il n'y a plus de raison de pleurer après. Hein, une fois qu'on a vu le Christ ressuscité, c'est...
Merci beaucoup, Xavier Lopiné. Hein. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté comme regard sur ces larmes.
Avec plaisir.
Bonne soirée.
Au revoir à tous.
Marilyn, pour rebondir un petit peu sur ce que disait le frère, finalement, ces larmes qui font, où Dieu fait vérité en nous, cette expérience des larmes, on a à la faire presque dans le mode de la conversion. C'est un petit peu le sens aussi qui est donné un peu au fur et à mesure de votre article. C'est presque des larmes égoïstes, on doit passer aux larmes de charité. Passer des larmes sur soi, d'ailleurs on a l'expression « pleurer sur soi-même », aux larmes sur les autres. C'est ce que dit Xavier Lopiné.
Oui, et puis il y a cette expression qui revient très souvent dans la Bible, notamment dans l'Évangile, en parlant du Christ, qui est saisi de compassion. Donc c'est ce saisissement qu'on est tous invités à vivre, c'est-à-dire que de passer des pleurs sur soi aux pleurs sur les autres. Donc de passer des larmes sur notre propre misère aux larmes de compassion, comme une grand-mère pleure sur la détresse de son petit-fils. C'est ce que disait le frère Xavier à l'instant, que les larmes ne viennent pas de nous, elles ne viennent plus de nous-mêmes et qu'elles viennent de Dieu. Et donc ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce don des larmes. Il existe aussi, alors on en parle assez peu aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été beaucoup commenté plutôt au Moyen-Âge et puis par certains mystiques comme Catherine de Sienne. Ce don des larmes, c'est quelque chose qui est reçu. Et donc, qui tout à coup se déverse sur nous sans qu'on en soit.
C'est quoi ? C'est on pleure comme ça d'un coup ?
Sans qu'on en s'y attende. Oui, et donc ça a un lien avec ce changement, cette conversion, ce retournement. Dans l'article publié dans Panorama, là, il y a une femme, mère de trois enfants, qui témoigne de ce don des larmes qu'elle-même a vécu. Elle s'appelle Mia, elle a été baptisée il y a peu de temps, et elle raconte que pendant qu'elle a eu tout un cheminement, mais surtout un moment très fort à Madagascar, pendant une messe du Père Pedro, qu'elle a eu une sorte de premier grand choc, on va dire, de conversion, et qu'alors des larmes se sont mises à couler sans qu'elle puisse rien faire, sachant qu'elle explique que lorsqu'elle était enfant, elle s'était forgé un tel système de défense que jamais elle n'avait pleuré devant ses parents. Donc c'était pas quelqu'un qui pouvait se targuer d'être particulièrement sensible ou spontané dans les pleurs. Et alors elle explique qu'après, donc c'était quelque chose qui l'a lavé de l'intérieur, qui l'a purifié, qui lui faisait vraiment qui avait un grand bienfait de ses larmes, sans qu'elle sache vraiment et sans qu'elle puisse vraiment contrôler. Donc quelque chose d'assez étonnant, qui est assez rare, mais qui existe aujourd'hui. Et d'ailleurs, Saint Jean Climac, qui a beaucoup parlé du don des larmes, disait que c'était quelque chose, si on a le bonheur de connaître ça, il faut surtout le conserver, ce don. Voilà, quelque chose de très fort. Et donc Mia, qui témoignait de ses larmes, racontait aussi plus tard que parfois ses larmes revenaient régulièrement, et notamment pendant les messes, et qu'au départ, elle était vraiment embêtée, tétanisée, parce qu'elle se disait, si les autres me regardent, ils vont se demander pourquoi je pleure. On n'est pas des funérailles, on est simplement à un moment de la vie ordinaire. Et donc oui, il y a toujours cette question du regard des autres sur nous. Mais c'est un don parce qu'elles ne viennent pas de nous et parce que elles lavent, elles abondent à l'intérieur de nous-mêmes et elles libèrent.
Et alors, je ne résiste pas à l'envie de vous demander, il y a un conte qui est connu à travers Walt Disney, La Reine des Neiges, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas la véritable histoire. Et il y a cette question des larmes au cœur de ce conte de La Reine des Neiges.
Oui, tout à fait. C'est un conte qui vient clore un peu ce dossier que publié dans Panorama, qui donc effectivement assez populaire aujourd'hui, mais assez méconnu sur ce plan-là. C'est-à-dire, il est imbibé de larmes, et il y a un grand sens qui est donné. Alors pour la petite histoire, j'ai redécouvert l'introduction de ce conte qui est peu diffusé et qui explique qu'en fait le diable a fabriqué un miroir un peu maléfique et que ce miroir s'est brisé et donc que les débris sont tombés sur la terre et en formant des petites poussières sont mises à entrer dans l'œil de certaines personnes et pour certains morceaux à tomber jusqu'au fond du cœur. Donc des petits débris de verre plantés dans le cœur. Et c'est ce qui se passe dans ce conte où Kai, le jeune héros, reçoit à un moment un débris d'abord une poussière dans l'œil. Alors il s'écrie « Aïe, j'ai quelque chose dans l'œil ». Et il est avec la jeune Gerda qui le regarde. Et à partir du moment où il pousse ce cri, et il y a quelque chose qui se fige en lui, qui ferme son cœur. Et donc à partir de ce moment, il va plus vraiment avoir ni compassion, ni larmes, ni beaucoup d'émotions. Et il y a un lien très fort qui est fait tout au long du conte avec la vérité de l'être, et c'est-à-dire que à partir du moment où il refuse de pleurer, et en fait il fait aussi semblant, c'est-à-dire que il a mal à l'œil et donc cette poussière qui est finalement ce qui l'empêchera de pleurer. La jeune Gerda lui dit qu'est-ce qui se passe, tu as mal, et tout d'un coup il dit non, il n'y a plus rien dans mon œil, alors qu'il sait qu'il y a quelque chose, et donc il se met à mentir, et donc en fait il se ment à lui-même, et ensuite il devient un peu hautain, dur, voilà, après il s'en va, il y a tout le conte qui se déroule, et après ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin du conte finalement cette poussière va enfin s'enlever de son œil, et ce morceau de verre va s'éclater, et à un moment où il entend un ancien cantique chanté par sa grand-mère, une grand-mère qui lui parlait beaucoup de la Bible, de la simplicité des choses, etc., et qu'il avait, au moment où il était obstrué, qu'il n'arrivait plus à pleurer, il avait perdu toute compassion, toute générosité envers cette femme, et même il l'a méprisée. On voit au début du conte une certaine douceur, la fraîcheur de l'enfance qui tout à coup
éclate.
Et cette fraîcheur de l'enfance, peut-être qu'elle est remplacée par une sorte de hauteur de vue, un petit peu qu'on a nous-mêmes une fois qu'on passe à l'âge adulte. On parle de la tendre enfance. C'est un conte qui explique que si on passe de la tendre enfance à l'âge adulte en enlevant cette dimension de tendresse de l'enfance, on devient dur. Voilà, c'est tout l'objet du conte. Et à la fin, ce qui est intéressant, voilà, j'y reviens aux larmes, c'est que donc au moment où ce garçon Kai est capable à nouveau de pleurer, alors qu'il n'a plus du tout pu le faire, il éclate en sanglots, le débris de miroir sort de son cœur, au moment où il entend ce cantique. Et à cet instant, il retrouve l'amitié qu'il avait un peu perdue et la douceur de vivre avec Gerda, la deuxième héroïne, et ils s'assoient ensemble. Et là, leur grand-mère, la grand-mère qui est au début de l'histoire, s'assoit au soleil et lit un passage de la Bible. Et elle lit ce passage « Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Et donc c'est très intéressant parce qu'il y a un lien à faire entre les larmes et la part d'enfance en nous. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il a mal, il pleure. Il y a quelque chose. On parlait au début de l'émission, le frère Xavier Lopinet nous disait, on a aujourd'hui peut-être un problème de corporéité, c'est-à-dire qu'on met trop de distance entre ce qui se passe en nous et notre corps. Et donc, si un enfant pleure quand il a mal, c'est qu'il y a, dans l'instantané, il réfléchit pas, il vit tout de suite ce qu'il est. Il dit pas, voilà. Bon, alors bien sûr, après, nous, on a notre retenue, on a notre une part de distanciation à avoir. Mais donc, à la fin de ce conte, il y a cette phrase « Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Et cette phrase conclusive très forte qui dit « Kai et Gerda restèrent longtemps assis, se tenant par la main. Ils avaient grandi et cependant, ils étaient encore enfants, enfants par le cœur. » Enfants par le cœur, voilà, ça signifie vraiment que si on garde notre capacité de pleurer, on reste des enfants, mais au bon sens du terme.
Justement, des enfants. Je vais vous faire écouter un petit morceau musical qui va rappeler beaucoup de choses. C'est « Jeux interdits ». avez probablement reconnu ce célèbre morceau musical de Jeux Interdits. Le compositeur est moins connu, Narciso Yepes, et c'est devenu la bande son du film de René Clément, Jeux Interdits.
Grand angle, Faustine Fayette.
Alors pourquoi j'ai choisi cette musique ? Parce que justement, nous parlons des larmes aujourd'hui dans Grand Angle et que tous ceux qui ont vu ce film Jeux Interdits, d'abord effectivement ces deux enfants, il y a une innocence et il y a en même temps des scènes vraiment fortes qui nous font pleurer. Et puis la musique en elle-même peut nous tirer les larmes. Donc j'espère que vous n'êtes pas tous avec vos mouchoirs. En tout cas, nous essayons d'apporter aussi un regard d'espérance sur ce thème des larmes. Et nous avons évoqué donc ces larmes. Qui font vérité en nous, ce Dieu qui pleure à travers nous. C'était très beau ce que disait le frère dominicain Xavier Lepinet. Et puis nous accueillons Anne-Dauphine Julien. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, Anne-Dauphine, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous avez écrit « Deux petits pas sur le sable mouillé », ça c'était en 2010 aux éditions Les Arènes, où vous racontez un peu votre histoire et l'histoire de la perte de vos deux petites filles, Thaïs et Asilis. Et puis récemment, vous avez publié « Consolation », toujours aux éditions Les Arènes. « Consolation », c'est un beau titre pour titrer un peu tout ce que vous avez vécu, ce témoignage et ce regard que vous portez peut-être en arrière et même peut-être aujourd'hui, cette consolation dans vos moments de pleurs. Qui vous a consolé ?
Beaucoup de gens. J'ai eu cette chance d'avoir été souvent et beaucoup consolée. C'est compliqué de consoler quelqu'un qui souffre quand on aime quelqu'un qui souffre. Donc j'ai été consolée autant par des inconnus que par des gens que j'aime. Évidemment mes plus proches, mais enfin je dis évidemment, mais c'est pas toujours les plus proches qui arrivent à consoler, parce qu'ils arrivent eux aussi avec leur peine, avec leur souffrance face à une épreuve qu'ils partagent également, et c'est encore plus compliqué de consoler, de sécher ou d'accueillir les larmes de quelqu'un quand soi-même on a du mal on a le regard troublé par ses propres larmes. Parfois la consolation, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'elle vient de n'importe qui, on est tous capables de consoler. Autant on peut croire au don des larmes, mais moi je ne crois pas que la consolation soit un don dont certains seraient pourvus et d'autres privés. Je crois que c'est une relation que chacun peut initier.
Alors cette relation, elle n'est pas facile d'emblée. Et on disait d'ailleurs en début d'émission que les larmes qui aujourd'hui peuvent être mal vues comme un signe de faiblesse, finalement, ce qui nous désarçonne le plus, c'est quand on est face aux larmes de l'autre aussi. Et donc, comment on apprend qu'est-ce qui fait qu'on arrive à accueillir les larmes de l'autre, finalement ?
Je crois que pour bien dire les choses, c'est tout à fait normal d'être mal à l'aise face aux larmes, et je trouve que c'est plutôt bon signe finalement. Ça serait embêtant que on regarde les larmes de l'autre sans gêne, comme si c'était évident, comme si c'était normal. C'est toujours très troublant de voir quelqu'un souffrir, c'est toujours éprouvant d'être le témoin de la souffrance de quelqu'un, et c'est bien, ça banalise justement pas la souffrance. Ça veut dire qu'on y est sensible, ça veut dire qu'on réagit face à la souffrance de l'autre, avec beaucoup de gêne parfois, mais c'est pas grave, cette gêne elle se surmonte. C'est un réflexe au début qu'on a quasiment tous, quand on voit quelqu'un pleurer, de regarder autre part, de regarder ses pieds, comme si tout à coup on rentrait dans l'intimité de quelqu'un, comme si on était témoin d'un laisser-aller qui ne nous regarderait pas. Je crois que quand quelqu'un pleure devant nous, c'est une façon de nous dire qu'il a confiance en nous. Confiance dans notre capacité à l'approcher, à le consoler, à le rejoindre dans sa souffrance. Il faut tout simplement beaucoup de simplicité pour consoler quelqu'un. Pas essayer de trouver une formule magique qui n'existerait pas. Pas nécessairement sécher les larmes, parfois c'est au contraire les laisser couler, les accompagner. Et c'est se dire que c'est juste cette rencontre, c'est juste tendre la main à l'autre pour lui dire « j'ai pas peur de ta douleur, j'ai pas peur de tes larmes et tu es le bienvenu dans cette société, dans notre humanité, avec ta douleur que nous pouvons apaiser. »
Dans votre livre, là, vous évoquez plusieurs passages de plusieurs attitudes et personnes qui vous ont aidé à différents stades. Vous avez peut-être un exemple d'une personne qui vous a consolé par un geste, par une attitude, par un mot, et qui vous a particulièrement marqué ? qui vous a aidé, oui. On va dire.
Oui, j'en ai plusieurs et j'en ai deux en particulier. L'une d'une infirmière, une parfaite inconnue, un soir aux urgences alors que ma fille avait été hospitalisée en très grande détresse vitale et que j'étais seule à ce moment-là avec elle. Et je débarque dans cet hôpital où je connais personne au cœur de la nuit en plus, donc très compliqué. Et il y a une infirmière qui vient s'assurer de l'état de santé d'Asilis et elle voit mon désarroi. Et elle s'assied à côté de moi, pas tout contre, mais elle rentre quand même dans le périmètre de ma douleur. Et elle me dit simplement « je suis là ». Et j'ai tout d'un coup ressenti un profond apaisement qui m'a permis de pleurer, qui m'a permis de ressentir ma douleur et de la vivre en vérité. Et puis j'ai le souvenir aussi, juste après la mort d'Asilis, d'avoir eu le sentiment que les gens n'osaient pas m'approcher, me toucher physiquement. C'est très, très perturbant ce sentiment qu'on est devenu intouchable à cause de notre douleur. C'est évidemment effrayant de s'approcher de quelqu'un qui vient de perdre un être aussi cher que sa fille. Et alors que j'avais l'impression vraiment de m'éloigner de plus en plus des autres, j'ai une amie qui est pas la plus proche, ni celle avec laquelle j'ai la relation la plus tactile, et pourtant c'est elle qui est arrivée, qui m'a juste serrée dans les bras. Elle m'a pas étouffée, hein, elle m'a juste serrée, fort, c'est vrai. Et j'ai ressenti une tendresse et une paix et quelque chose de bon qui m'a fait un bien fou.
Marilyn, dans les différents témoignages là, que vous avez recueillis, je repense donc au père de famille et à Mia, cette mère de famille aussi. Est-ce qu'ils ont partagé sur comment ils avaient dépassé, de qui ils avaient reçu la consolation ? Alors tous les deux, en tout cas Mia, il y a la foi en Dieu. On en reparlera avec vous d'ailleurs, Anne-Dauphine. Timothée, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce que vous avez senti à un moment un dépassement et une consolation très concrète ?
Oui, alors concrètement, c'était un peu... Je pense que ça peut être parfois proche de ce que disait à l'instant Anne-Dauphine Julien. Timothée, il a été très porté déjà dans son couple. Ce qui est délicat, c'est que les deux vivent la même épreuve. Mais heureusement, finalement, parfois l'un porte l'autre et à un autre moment, l'autre porte le premier en fonction des moments. Parfois, c'est pas évident. Mais donc là, il y a quelque chose de très fort. Il y a une sorte d'apprentissage de la consolation conjugale dans l'épreuve. Et puis, lui-même parlait aussi de sa foi et de gens proches, d'une fraternité qu'il a beaucoup soutenue. Il s'est senti un peu comme apaisé au fil du temps. Et il raconte aujourd'hui qu'il y a une vraie joie, une vraie paix. Et pourtant, même quand il repense à cette épreuve, il y a quelque chose tout au fond. Il y a parfois des larmes qui peuvent revenir, mais il y a quelque chose de très profondément qui est une paix durable. Et donc ça, c'est surtout la foi et la dimension de la phrase biblique qui dit « qui sème dans les larmes moissonne dans la joie ». Voilà, il y a quelque chose de terriblement contradictoire. On peut se dire, mais comment, quand on vit le deuil le plus profond d'un de ses enfants, on peut parler de joie, mais peut-être qu'Anne-Dauphine Julien pourra nous en dire un mot aussi, mais je pense qu'il peut y avoir un lien, et en tout cas, certaines personnes le font.
Anne-Dauphine, la douleur et la paix en même temps, et peut-être des larmes qui coulent encore, je ne sais pas, c'est tout ça, vous le vivez ?
Oui, moi je parle en effet plutôt de douleur et de paix que de douleur et de joie, parce que c'est compliqué quand même la joie quand on souffre autant. En fait, c'est ça la consolation. C'est ce que j'ai découvert avec la mort de mes filles. C'est que la consolation, c'est pas de gommer et de faire disparaître la souffrance de nos vies. C'est absolument impossible. Moi, je pleure tous les jours, ou presque tous les jours encore, la mort de mes filles. Thaïs est morte il y a 11 ans, Asilis il y a 3 ans. Et c'est quelque chose qui encore me submerge au moins une fois par jour, quoi. Et je sais que ça sera comme ça toute ma vie. Et c'est pas que je ne suis pas consolée, c'est que c'est normal. C'est que je continue à aimer mes filles, donc elles continuent à me manquer, et ça sera comme ça jusqu'à ce que je les rejoigne. Mais la consolation, elle m'a apporté une paix. Elle m'a permis de vivre cette souffrance sans en avoir peur, en fait. De l'accueillir dans ma vie, de l'apprivoiser, finalement. De lui laisser une place en lui disant... Tu vas coloniser mon cœur, c'est certain, mais tu vas aussi cohabiter avec d'autres sentiments qui sont ce que je suis. Et en effet, là, il peut y avoir la joie, le bonheur, l'humour, enfin beaucoup de choses. Hein.
Est-ce que cette consolation, cette paix, c'est ce qui permet de... Ce que vous disiez un peu dans l'article, c'est ce côté adoucir le cœur. Parce qu'en même temps, c'est un peu contradictoire. Les épreuves, souvent, aussi nous endurcissent parce que, voilà, on se forge une carapace, on peut s'enfermer à l'intérieur de soi. Et en même temps, vous dites, mais oui, mais les pleurs, laissez venir les pleurs, c'est ce qui permet d'adoucir le cœur. Ça paraît contradictoire.
Oui, ça paraît contradictoire de prime abord, sauf quand on le vit. Quand on le vit, on se rend compte que dans la souffrance, on s'endurcit. Mais pourquoi on s'endurcit ? Parce qu'on a peur de souffrir encore plus. Parce que la souffrance, elle nous rend vulnérables. On se sent tout nu, en fait, quand on souffre. Et du coup, on s'endurcit parce qu'on a peur. Et que cette consolation, elle vient justement dire, mais n'aie pas peur de moi, je ne vais pas te faire encore plus mal. Au contraire, je suis là pour apaiser ta souffrance et pour t'accompagner, pas pour la vivre à ta place, mais pour t'accompagner dans ta peine. Et tout à coup, c'est vrai qu'on s'adoucit, on se laisse un peu faire, finalement. C'est une grande preuve de confiance que de pleurer et que de montrer sa douleur au monde, finalement. C'est une preuve de confiance dans le monde et plus précisément dans l'humanité, dans la capacité qu'a l'autre, juste l'autre, le prochain, à s'approcher et à porter une partie de notre douleur, à la soulager en tout cas, en la vivant peut-être aussi. Moi, je trouvais ça très très compliqué de souffrir une douleur commune dans le couple. Hein. Je trouve que ça rend certainement fort. Et ce qui rend fort, c'est la consolation. C'est pas l'épreuve. Hein. L'épreuve, ça ébranle un couple, mais c'est incroyable quand on arrive à se consoler. On arrive à un degré d'intimité et un degré d'amour, je pense, qui est inégalé. Donc c'est ça qui adoucit, en fait, c'est de se dire, c'est ma souffrance, je peux la vivre parce qu'elle sera consolée. Si elle n'est pas consolée, évidemment qu'elle endurcit, et c'est normal, mais c'est la responsabilité de tout un chacun de consoler une peine.
Et ces larmes, est-ce qu'elles vous ont, cette épreuve dans les larmes, est-ce que ça vous a apporté aussi une forme de vérité, de connaissance de vous-même, de connaissance de votre couple aussi? Alors évidemment, à l'épreuve des larmes, peut-être on aurait voulu que ça se passe différemment, mais voilà, il y a une forme de vérité à travers ces pleurs.
Ah oui, ça c'est certain, on aurait voulu que ça se passe différemment. On aurait voulu on aurait voulu apprendre à mieux s'aimer uniquement dans les moments joyeux, mais voilà, l'épreuve, elle nous éprouve. Dans les deux significations, elle nous met à l'épreuve. Dans cette belle signification aussi, elle nous montre de quoi on est capable, ce que l'on a au fond de nous, ce que l'on peut puiser en nous, et puis aussi ce que l'on peut puiser dans l'autre. Donc en ça, c'est vrai qu'elle met un couple à nu, et comme je le disais, et j'insiste, parce que je crois que c'est une réalité qu'il faut absolument pas nier, à quel point c'est compliqué à vivre dans un couple, quand bien même on est fou amoureux. C'est parce que la souffrance, elle se vit chacun isolément, en fait, chacun intimement. Et quand bien même Loïc a vécu lui aussi la mort de Thaïs et d'Asilis, il l'a vécu à sa façon, et je l'ai vécu à la mienne, et il a fallu que je le rejoigne pour le consoler et qu'il me rejoigne pour me consoler.
Ouais.
Donc quand on y arrive, et on n'y arrive pas toujours, on n'y arrive pas tous les jours, quand on y arrive, c'est vrai que ça fait énormément grandir l'amour, mais ça l'abîme aussi, parce qu'un cœur qui pleure a plus de mal à aimer, je pense. Je pense que ça nous... Oui, ces larmes, cette façon de vivre la peine, elle nous permet de mieux vivre en vérité, parce que on s'autorise à vivre la douleur comme elle est. Et c'est tellement important. On a tant d'injonctions dans cette société pour sécher ses larmes, pour pas montrer sa peine, pour être fort, pour dire que ça ira mieux. Non, en fait, je crois que quand on est triste, la seule chose qu'on a à faire, c'est pleurer. Enfin, c'est pleurer ou exprimer sa douleur ou sa peine telle qu'elle vient. Et si c'est à travers les larmes, que ce soit à travers les larmes. Si c'est à travers des cris, que ce soit à travers des cris. En fait, c'est pouvoir dire la vérité de ce que l'on vit, de cette souffrance que l'on ressent, et qui nous permettra l'instant d'après, si c'est le cas, si la peine s'arrête et que le bonheur revient, de vivre le bonheur aussi avec cette même vérité. Je crois qu'on ne peut pas vivre vraiment heureux si on ne vit pas pleinement sa peine aussi auparavant ou en même temps ou après. Je pense qu'il faut avoir la simplicité de vivre la vie comme elle est et d'accepter que si c'est dur, c'est dur, sans se réfugier dans un futur bonheur ou hypothétique bonheur. Non, c'est dur, on est dans le dur, on pleure. On voit pas le bout du tunnel, il y en a peu. Enfin, on imagine qu'il y en a pas, et ce qui nous soulage, c'est pas qu'il y a un bout du tunnel. Ce qui nous soulage, c'est d'être consolé dans cet instant-là, d'être rejoint, d'être aimé au moment où on souffre.
Ça fait écho. Je me tourne vers Marilyn avec les mots du poète chrétien Jean-Pierre Lemaire que vous avez aussi interviewé dans ce dossier. Et il y a cette très belle phrase: consentir à pleurer, c'est consentir à vivre. Qu'est-ce qu'il nous dit Jean-Pierre Lemaire derrière ces mots et dans cette interview ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, son recueil principal s'intitule Le pays derrière les larmes. Et donc, oui, il développe cette idée que les larmes sont vraiment un moment de vérité. C'est, quand on pleure, c'est toujours un effondrement, toujours. Mais il y a aussi une espèce de plongée. Et donc, on atteint une profondeur que ben, parfois on a peur d'atteindre. C'est ce qu'on disait à l'instant. Pleurer est un passage par la vérité. Et le poète fait d'ailleurs une comparaison avec la poésie, même le fait même d'entrer dans un poème. C'est-à-dire que quand on émerge des larmes, il y a un pays qui se dévoile, avec ce titre, Le pays derrière les larmes. Et un peu comme dans l'histoire de Noé, on voit apparaître l'arc-en-ciel après le déluge, après ce déluge qui est donc des trompes d'eau hein, qui coulent voilà, pendant des années. Et donc, quand le déluge cesse, donc quand les larmes cessent aussi, il y a un pays qui est finalement plus large, plus clair, et dans lequel on peut de nouveau avancer. Et donc, en fait, le poète, il a cette idée que aujourd'hui, on a tendance à vouloir refuser d'atteindre ce pays, c'est-à-dire les larmes nous mènent quelque part, mais c'est un bain très profond et dans lequel on a peur de se plonger. Et d'ailleurs, dans cette période d'épidémie qu'on vit, parfois, on a le sentiment que lorsqu'on maintient la mort à l'écart, qu'on a du mal à laisser la souffrance s'exprimer par les cris, par les pleurs, la société est un peu aseptisée. C'est aussi parce qu'on, voilà, c'est le signe d'un durcissement et qu'on refuse cette plongée qui nous permet finalement après de, voilà. On dit aussi que les larmes lavent le regard. Donc, en fait, après, le regard, il est différent sur soi-même et puis sur le monde.
Alors Jean-Pierre Lemaire, il dit qu'il est très frappé par le personnage de Marie-Madeleine. C'est vrai qu'on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure des différents personnages bibliques. Et même, il est frappé parce que elle est elle-même dans ses pleurs. Elle se montre telle qu'elle est, quoi. Et ce que disait Anne Dauphine, Julien, c'est pouvoir vivre la douleur telle qu'elle est, s'autoriser à la vivre.
Oui, c'est ça, c'est être complètement mise à nu. Donc, effectivement, c'est un poète, Jean-Pierre Lemaire, qui s'attache fortement à certains personnages bibliques, et notamment à Marie-Madeleine. Et d'ailleurs, il évoque un de ses poèmes dans lequel il se projette et il s'imagine, il se reconnaît en fait dans la figure de Simon le pharisien. C'est Simon le pharisien qui voit Marie-Madeleine pleurer et qui, sans doute, au départ, la méprise ou voilà, se gosse un peu de cette femme qui est tellement éplorée sur les pieds du Christ. Et donc, il se sent rejoint parce que lui-même exprime cette difficulté à pleurer. Et parce qu'il voit que Marie-Madeleine est montrée à cet instant par le Christ comme l'exemple d'un amour plus grand. Voilà, et donc, il y a un lien fort entre les larmes aussi et l'amour. Et donc, il s'imagine, dans l'un de ses textes, il s'imagine que après Simon le pharisien, on ne sait pas ce qu'il devient dans l'histoire, mais lui imagine qu'il parcourt les rues de la ville à la recherche de Marie-Madeleine pour pouvoir lui-même à son tour mouiller les pieds de ses larmes. Il imagine même des souliers rouges, voilà, il imagine que Marie-Madeleine portait des souliers rouges, donc ça... Et il cherche partout, et voilà, et son cœur désire aussi à son tour verser des larmes. Et dans un autre poème, il parle de ce flacon d'albâtre dur qui a été brisé aussi. Mmh. Et que ce même personnage ramasse les débris de ce flacon et voudrait à son tour briser ce qui est dur, en son cœur. Voilà, un lien à faire entre le cœur et le flacon qui se brise aussi. Et donc, en fait, dans ce... Voilà, accéder à ce pays derrière les larmes, donc le titre de ce recueil de Jean-Pierre Lemaire qui est interviewé dans Panorama, c'est pour lui faire un pas de plus dans l'amour et en fait renoncer à toute hypocrisie. Hein, on sait que dans la Bible, Jésus régulièrement traite les pharisiens d'hypocrites. Même le pape, quand il parle des larmes, il dit pleurer. Seuls les hypocrites ne savent pas pleurer. Il y a ce passage à faire. Donc, c'est un vrai moment de vérité que de pleurer.
Ça me fait penser d'ailleurs que souvent, quand quelqu'un nous demande comment ça va ou même si ça va pas, souvent on dit non, mais ça va bien, ça va bien. Anne Dauphine, Julien, évitez les larmes, évitez de dire, alors peut-être sans forcément s'étaler, faire semblant que tout va bien. Finalement, qu'est-ce qu'on risque? C'est quoi l'enjeu derrière? Qu'est-ce qu'on perd?
On risque de se retrouver tout seul, je pense, tout seul avec sa douleur. On dit tout va bien ou ça va aller, mais ça prouve qu'on n'a pas confiance dans l'autre, en fait, dans sa capacité à nous rejoindre dans la douleur. On se méfie de lui, on se méfie peut-être aussi de nous-mêmes, on voudrait maîtriser cette douleur qui nous dépasse, parce que la douleur, elle nous dépasse souvent. Hein. Ces larmes, quand elles jaillissent, on a du mal à les contrôler. Enfin, moi, du coup, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à les contrôler. Je peux pleurer abondamment alors que j'aurais voulu juste verser quelques larmes, ou au contraire, ne rien montrer. Puis je les laisse, en fait, me submerger, sans me noyer pour autant, mais de me dépasser, parce qu'elles disent aussi la profondeur de ma douleur. J'aime bien, en effet, cette idée de plonger au cœur de sa douleur, et parfois, la douleur est encore plus profonde que ce que l'on pouvait imaginer. Mais c'est aussi la sonder, cette douleur, que de pleurer, que d'oser y plonger. C'est en sonder, non pas la profondeur et la densité aussi. En disant à l'autre tout va bien, c'est se priver de la relation de la consolation. C'est l'empêcher de nous rejoindre, c'est l'empêcher de nous aimer aussi avec cette fragilité. C'est vouloir lui faire croire qu'on est fort, alors qu'à l'intérieur, on pleure. Et si on pleure à l'intérieur, je pense qu'on se noie.
Celui qui vous a rejoint
et dans la solitude.
Celui qui vous a rejoint notamment, c'est Dieu. Vous en parlez un petit peu dans ce dossier. Comment vous avez senti, vous parlez de la consolation de Dieu. Ça paraît parfois mystérieux. On s'est dit, mais comment on le sent? Comment vous avez senti que vous étiez porté?
Alors, la consolation de Dieu, je voudrais juste dire qu'elle n'exclut pas la consolation de l'homme. Hein. Je pense que c'est très important, quand bien même on connaît la consolation de Dieu, d'être consolé par l'homme. Parce que nous sommes profondément humains. Moi, je l'ai ressenti à des moments très, très intimes de ma vie. C'est dans les moments où j'ai été le plus fracassée, le plus vulnérable. C'est à l'instant de la mort de chacune de mes filles. Ou quand bien même Loïc était collé à moi, et voilà, et que j'avais... pour Azilis, en tout cas, mes parents dans la pièce à côté, je me suis sentie dans une solitude totalement désarmante et abyssale. Et, parce que c'est ça la souffrance, hein, c'est cette profonde solitude. Elle vient s'ancrer dans ce que nous sommes, dans l'intime de l'intime, où personne ne peut nous rejoindre, quel que soit l'amour et la proximité de cette personne, elle ne peut pas nous rejoindre dans notre souffrance. Et donc je me suis sentie seule, et à ce moment-là, j'ai entendu à ma façon, je t'aime. Voilà, je suis là et je t'aime. Et je me suis dit, dans cette solitude, il n'y a que lui qui peut me rejoindre. Il n'y a que lui qui peut me rejoindre. Et dans ce je t'aime, j'ai vu, on parlait de la paix tout à l'heure, et j'ai vu toute la paix que pouvait m'apporter la consolation de Dieu. C'est de me sentir aimée quoi qu'il arrive. Même si je suis minable, même si je suis fracassée par la douleur, même si je suis à nu et blessée, il m'aime. Et ça m'a donné une force. Ça ne m'a pas empêchée de pleurer. J'ai pleuré tout aussi abondamment et tout aussi intensément que toute mère qui perd son enfant, sans entendre ce « je t'aime » résonner dans son cœur. Mais il était là et il m'a apporté la paix comme semblable à la profondeur de l'océan.
C'est une belle conclusion de cette émission, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, cette conversion de passer des pleurs sur soi aux pleurs aussi sur l'autre, et aussi de venir consoler et d'accepter la consolation. Nous parlions des larmes aujourd'hui dans Grand Angle. Merci beaucoup Anne-Dauphine Julien. Donc je rappelle votre livre Consolation aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup Marilyn Chaumont qui est venue, donc qui avait signé cet article dans Panorama, Éloge des larmes. Merci, au revoir.
Merci.
Merci à vous.